Une vie, une œuvre, c'est samedi, 16h, c'est tout de suite. Rudyard Kipling, l'écriture entre les lignes, 1865-1936. Aujourd'hui, Une vie, une œuvre, c'est l'histoire de celui qui a sillonné le vaste monde des Indes britanniques où il a grandi, en passant par le Japon, l'Amérique et l'Angleterre. L'histoire de celui qui a écrit pour la jeunesse, fait parler les animaux de la jungle et confie un petit homme à une meute de loups. C'est l'histoire de celui qui était aussi journaliste et poète, celui qui a inventé le très méchant serpent Kaa, Balou, Mowgli et Bagheera, de celui enfin qui a été adoré, autant que détesté, tout prix Nobel qu'il était. Mais quand on regarde les photos de Rudyard Kipling, on n'y trouve pas cette étrange fantaisie. Au contraire, on a la sensation un peu étrange de regarder toujours la même. Toujours ses sourcils broussailleux qui lui donnent l'air sévère, toujours cette moustache fournie qui lui mange les lèvres, toujours ces petites lunettes cerclées de fer qui semblent si fragiles sur ce visage massif, orné d'une fossette au menton. Toujours ces cols blancs, rigides et cassés qui semblent lui serrer le cou, et toujours cet air pensif ou rêveur, à moins que ce ne soit tout simplement un air triste, la tristesse des incompris. Alors il est peut-être temps d'essayer de mieux le comprendre, lui qui est mort il y a tout juste 80 ans. Rudyard Kipling, l'écriture entre les lignes, un documentaire de Virginie Bloch-Lenné, réalisé par Clotilde Pivin.
Il arrive à faire le grand écart dans ses premiers contes, en mêlant
François Rivière.
Des paroles de la Bible à des souvenirs de ses lectures, des romans d'une romancière française qui avait comme pseudonyme Jeep, qui était un personnage qui a disparu complètement, mais que lui adorait. Elle écrivait des choses plutôt humoristiques. Il lisait parfaitement le français. Il avait été avec son père justement à l'Exposition universelle.
En 1878.
Oui, c'est ça, voilà, exactement.
Il était francophone et francophile.
Et comme, au moins, il avait un cerveau qui fonctionnait bien, quoi. Mais en quelques jours, il avait commencé à apprendre le français. Hein. Et puis après, il a lu beaucoup d'auteurs français. Il aimait beaucoup les auteurs français. Hein.
Il y a 6 semaines, je le voyais encore chez lui, plus vert, plus gamin, plus gai, plus gaillard que jamais.
Louis Gillet, historien d'art.
Je le voyais dans son bureau couché à plat ventre sur la carte. La seule manière de lire un itinéraire, disait-il, c'est-à-dire en l'éprouvant avec son corps. Je le voyais après le dîner jouer à la balle comme un enfant avec son chien Michel. Et je me demandais quel était le plus gosse des deux.
Et donc, il y a des personnages absolument magnifiques, notamment la colonie anglaise, donc, qui quittait les villes quand il faisait trop chaud pour aller se réfugier dans les hauteurs, dans les montagnes, à Simla, là où le vice-roi emmenait toute sa petite cour. Enfin, pour moi, c'est des ambiances d'opérette, un peu. Enfin, il y a un côté comme ça, quand on monte dans les hauteurs, c'est presque une ambiance presque de conte, c'est Offenbach, quoi. Avec toute la petite cour, les gens et les parents de Kipling qui étaient des courtisans justement, qui eux montaient degré par degré dans la société anglo-indienne, qui se faisaient des relations et qui comptaient d'ailleurs en faire profiter leur fiston. Et d'ailleurs ça a marché hein, d'une certaine manière.
Rudyard Kipling, l'écriture entre les lignes. Virginie Bloch-Lenné, Clotilde Pivin.
L'œuvre de Kipling,
Alexis Tadier,
est très diverse. C'est un nouvelliste, c'est un poète, c'est un essayiste aussi, et c'est un romancier. Mais de ses romans, finalement, il y a Kim qui est un grand chef-d'œuvre. Le livre paraît en 1901, alors que Kipling a quitté l'Inde depuis pas mal d'années. Et ce livre est l'histoire d'un enfant qui est irlandais de naissance, mais qui est en fait indien de vie et d'activité et d'intégration dans le monde. Et alors c'est un roman qui est à la fois l'histoire d'une quête, une espèce d'histoire de l'Inde, enfin pas une histoire événementielle, mais
une traversée.
Une traversée de l'Inde. Et c'est surtout, à mon avis, c'est un conte. C'est le conte d'un enfant dans le monde. Et le conte d'un enfant dans le monde qui, à la fin, arrive à l'adolescence. C'est-à-dire, c'est aussi l'histoire d'un enfant qui cesse d'être un enfant. Chose qui fascinait Kipling dans pas mal d'histoires. C'est l'histoire de Mowgli aussi. Le moment où Voilà, la fin de l'enfance, c'est quand on ne peut plus être partout dans toutes les histoires et que l'on, hélas, que l'on grandit.
Pourquoi Kipling, Alexis Tadier, s'intéresse autant à l'enfant jusqu'à l'adolescence, à cet enfant en formation?
Alors, c'est peut-être lié à son enfance à lui et cet abandon qu'il a expérimenté. L'enfant permet d'être de tous les mondes, de passer dans Kim, de se déguiser, d'être même jeune fille à un moment donné, d'être espion, d'être etc. L'enfant a une plasticité que n'ont pas d'autres personnages. L'enfant chante, donc des poèmes, etc. Et c'est donc probablement ces éléments-là qui permettent d'expliquer cette importance de l'enfant dans les textes de Kipling.
Le voyage de Kim,
Mathias Hénard,
ressemble un peu à l'Inde de Kipling, c'est-à-dire que ça commence à Lahore, là où où son père était le directeur du musée, là où il a été journaliste pendant quelques temps, et puis donc c'est l'Inde du Nord jusqu'au Bengale. C'est vraiment cette espèce de grande moitié, disons, nord de l'Inde, qui est le monde de Kipling.
Et qu'est-ce qu'il observe de l'Inde? Parce qu'il observe les Anglais en Inde, mais comment il observe?
Il observe les Anglais en Inde, mais aussi il a une certaine passion pour les Indiens eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il a, on l'a souvent taxé justement de pas s'intéresser à l'Inde, d'être un colonisateur plutôt du côté britannique. Quand on regarde bien les textes, c'est pas forcément vrai. Il y a quand même un certain intérêt pour la multiplicité des visions de l'Inde. C'est-à-dire que pour lui, l'Inde, c'est aussi un pays extraordinairement cosmopolite, où on va trouver, bien sûr, des hindous, mais aussi beaucoup de musulmans, et même voilà, des bouddhistes venus d'au-delà des montagnes. On va trouver une grande diversité de lieux, de paysages, de formes de vie, qui sont une grande description du commerce, par exemple, des voyages, de la façon dont on se déplace en Inde, comment est-ce qu'on vit d'une ville à l'autre, d'une langue à l'autre. Et ça, disons au moins le début d'une vision vraiment indienne, un peu plus générale.
Kipling est né en Inde et il a vécu jusqu'à 6 ans, et puis comme beaucoup d'enfants des familles coloniales, entre guillemets, il a été envoyé en pension en Angleterre avec sa sœur à l'âge de 6 ans, expérience proprement traumatisante. Et il est revenu en Inde à l'âge de 16-17 ans pour travailler comme journaliste, en quelque sorte, dans un petit journal de Lahore qui s'appelait le Civil and Military Gazette. Il faisait du reportage sur la vie quotidienne, la vie locale, et était en fait, comme il l'a dit lui-même d'ailleurs quelque part, il représentait à peu près 50% du staff du journal. Et puis, il s'est mis à écrire des petites scènes de la vie quotidienne, on pourrait appeler ça comme ça, des choses vues dans les petites villes indiennes où il était, à la fois Lahore, qui n'est pas une petite ville, et puis les petites villes de montagne où se réfugient les Anglais pendant les chaleurs et pendant les pluies d'été. Et donc, ces nouvelles, en quelque sorte, ont constitué une activité littéraire pour Kipling pendant à peu près un an et demi ou deux ans, et il les a après réunis dans un volume qui s'appelle Simple Conte des collines en français, qui s'appelait Plain Tales from the Hills en anglais, et il est impossible de rendre évidemment en français le jeu de mots sur plain qui veut dire à la fois simple, mais qui renvoie aussi à la plaine par opposition aux collines, etc. Et puis, après, il a continué à être journaliste, et le Civil and Military Gazette dépendait d'un autre journal qui s'appelle le Pioneer, qui était publié à Allahabad, et où là aussi, il a eu la possibilité d'alimenter le journal avec des nouvelles. Et c'est un petit peu comme ça que sont nés ses écrits. Ses poèmes, il en va de même. Les premiers sont des poèmes qui ont été publiés aussi dans ses journaux, et qui ont été après recueillis. Et donc l'activité de Kipling au début est vraiment une activité est à la fois une activité de journaliste, mais aussi d'écrivain qui trouve dans le contact immédiat avec son environnement la matière de ses premiers écrits.
Il avait été poussé à l'écriture par ses parents.
Il a certainement écrit sous le regard de ses parents, et d'ailleurs dans son autobiographie, il fait état d'une nouvelle qu'il avait écrite et qu'il avait envoyée à sa mère, et sa mère lui avait dit de jamais écrire des choses comme ça, et donc je crois que cette nouvelle a été déchirée ou supprimée, etc. Finalement, il a peu grandi avec ses parents, puisqu'il était en Angleterre, même si ses parents sont venus de temps en temps le voir. Il y a un personnage au début de Kim, qui est le conservateur de musée, justement, qui est très certainement modelé sur le père de Rudyard. Donc, il y a un environnement familial, de là à dire qu'il a été fortement poussé, je ne sais pas. Et Kipling n'a pas eu une carrière scolaire brillante, ni universitaire. C'est vraiment quelqu'un qui s'est imprégné, finalement, du monde où il vivait, et puis du métier qu'il faisait. Et les deux sont entrés en résonance et lui ont fait découvrir, avec d'autres adjuvants aussi, sa vocation littéraire.
Les parents de Kipling sont des personnages non seulement essentiels pour son existence, mais aussi pour son éducation, pour son évolution dans le monde. Sa maman était une des quatre filles du pasteur MacDonald, une des tantes de Rudyard était la femme de Burne-Jones, une autre était la maman du futur premier ministre Baldwin, enfin bon, c'était pas n'importe qui, et c'était vraiment une forte femme, hein, la maman de Kipling. Alors que le père, qui était effectivement un artiste, un peintre, un illustrateur, un sculpteur, était peut-être quelqu'un d'un peu plus réservé, enfin en tout cas, au moins en apparence, alors que finalement le couple formait justement une entité très forte, qui s'est efforcé de forger la personnalité de Kipling, même presque sa carrière, enfin qui ont été, oui, essentielles. Il n'y a pas d'autre mot. Et donc la relation entre le fils et ses parents est assez compliquée. Enfin, on saura jamais tout, évidemment. Il y avait aussi une sœur, du médium, qui est un personnage très pittoresque. Je pense que Kipling aimait beaucoup sa mère, mais enfin, elle, pour moi, n'a pas quelque chose d'extrêmement maternel, comme on l'entend de manière habituelle. Alors que le père, justement, était peut-être plus... Peut-être que le père de Kipling, Lockwood, l'a plus materné, d'une certaine manière, qu'il n'a fait sa mère. Enfin bon, c'est un peu compliqué, mais effectivement, on peut pas éloigner ça, si on veut essayer de comprendre le personnage de Kipling.
Pourquoi les citadiers, Kipling et sa petite sœur sont envoyés en Angleterre alors que les parents vivent en Inde, chez des gens qui sont des inconnus ?
Toutes les familles faisaient ça. C'est une question compliquée de comprendre un petit peu la psychologie de ces familles coloniales, parce que ils sont anglais, ils ne sont pas indiens, ils sont anglais, ils sont installés en Inde. Le jour où ils s'arrêteront de travailler, ils retourneront en Angleterre. Ce qui est arrivé d'ailleurs aux parents de Kipling et qui a fait que Rudyard lui-même n'est jamais retourné en Inde après cela. Et donc, on envoyait les enfants en pension. Alors, suivant les moyens financiers que l'on avait, on les envoyait dans des grandes public schools, dans des petites public schools, ou alors en pension chez des gens. Et effectivement, les deux jeunes enfants Kipling se sont retrouvés dans cette famille où la vie était très dure.
Lui, il était battu, sa petite sœur, non ?
Lui était battu, effectivement, et... Ce ont été des années très très dures pour Kipling. Puis après, il a été dans une école où les choses se passaient plutôt mieux. Mais c'était encore une fois le lot de la quasi-totalité des enfants britanniques, des colons.
Saint-Homme, as-tu jamais fait route tout seul ? Sûrement, enfant, de Koulou à Pentecôte, de Koulou où mon premier Sheila mourut. Quand on était bienveillant pour nous, nous faisions des offrandes, et tout le monde s'est montré favorable dans toute la montagne. Les choses vont autrement en Hend, dit Kim, d'un ton décisif. Leurs dieux ont beaucoup de bras et sont méchants. Laissons-les tranquilles. Je voudrais vous montrer le chemin un peu, ami de tout au monde, à toi et à l'homme jaune. La nuit dernière a décelé les fontaines du souvenir dans mon cœur desséché par l'âge, et ce me fut une bénédiction. C'est vrai qu'il y a de la guerre dans l'air, je la sens. Vois, j'ai apporté mon sabre.
François Rivière, vous êtes essayiste et journaliste et écrivain. Et vous avez écrit un roman qui s'appelle Le mariage de Kipling. Et on voit Kipling arriver en Angleterre, ayant quitté l'Inde définitivement. en 1889. Il y retournera en 1891, mais c'est la fin pour lui, c'est la fin de l'Inde. Et il est exotique par rapport aux Anglais d'Angleterre. C'est un peu un hurluberlu pour la société anglaise.
C'est surtout un jeune sauvage, un garçon qui profite quand même du fait qu'il est envisagé par beaucoup de gens, les gens en question étant des critiques, les gens qui comptent à Londres à ce moment-là, dans le domaine littéraire, qu'il envisage justement comme un espèce de rebelle, mais il profite de ça, il joue avec ça, parce que justement il est célèbre, il est instantanément célèbre, si on peut dire.
Alors qu'il est très jeune, oui.
Alors que oui, il est encore très très jeune, oui. Mais sa réputation s'est forgée en Angleterre avec ses premiers petits recueils publiés en Inde, qui l'ont précédé donc en Angleterre et qui et pendant le long voyage qu'il ramène vers l'Angleterre, vers Londres.
Oui, parce qu'il passe par
Le Japon, puis l'Amérique. Il reste pas mal de temps en Amérique parce qu'il veut absolument connaître plein de choses, parce qu'il a déjà l'idée d'aller s'installer en Amérique, puisque et c'est ce qui va arriver d'ailleurs. Mais l'Angleterre, c'est le pays de ses ancêtres. De son oncle Burne Jones, de ses cousins, notamment de son cousin qui peut pas voir en peinture. L'Angleterre, c'est le vieux pays, quoi. Au fond, il a goûté de l'Inde où il peut pas vraiment rester parce que c'est d'une certaine manière, c'est invivable, pour un Anglais, l'Inde.
Pourquoi?
Ben, le climat, l'ambiance, et puis quel avenir on peut avoir. Je pense qu'il admire beaucoup ses parents qui, eux, ont fait carrière, surtout le père, en Inde, quoi, devenant de simples illustrateurs émigrés là-bas, du directeur du musée de Lahore, et puis justement ami du vice-roi. Enfin bref, ses parents, eux, ont fait carrière, mais lui, il n'a pas du tout envie, quoi. Il est quand même très malin parce que justement il a bien profité de ça, bon, notamment de l'aide de ses parents. Pour déjà se faire un nom, ce qui fait que quand il arrive à Londres en 1889...
À 25 ans.
C'est un personnage très folklorique sur le plan, culturellement parlant, si on peut dire, et même qui va fasciner plein de gens, qui va énerver beaucoup d'autres gens.
Qui va fasciner Henry James.
Mais enfin, du coup, il va avoir des grands admirateurs. Et il y en a un personnage décisif sur la scène littéraire qui est Edmund Gosse, le grand critique littéraire, mais qui est un type assez, qui est lui-même un grand ami de James, mais qui est quelqu'un d'un peu austère, et qui essaie, mais surtout qui est vexé comme un pou, parce qu'il essaie d'inviter le jeune Kipling. Mais c'est vraiment, je sais pas, c'est idiot de faire des comparaisons comme ça, mais je veux dire, c'est un peu Bret Easton Ellis, c'est un peu une espèce de pop star, à ce moment-là. Et du coup, il choisit soigneusement les gens avec qui il a envie de frayer. Et il y a notamment cet Américain, Henry James, qui est fasciné par lui, qui est en admiration devant justement ce sauvage. Quoi. Pour lui, la sauvagerie littéraire de Kipling, c'est quelque chose de complètement fascinant. Il va écrire des textes magnifiques, des préfaces aux éditions américaines. Tout ça amenant tout doucement justement Kipling vers l'Amérique et ses amis, ses futurs amis.
Entre 1892 et 1896, Kipling et sa femme s'installent aux États-Unis, dans le Vermont. Ils y retourneront en 1899. Leur fille Joséphine mourra au début du voyage. À partir de là, Kipling ne mettra plus les pieds aux États-Unis. It's a wonderful world, and you take and you give. And the sun fills the sky in the space where you live. It's a day full of dreams. It's a dream of a day. François Rivière, Kipling épouse une américaine qui est la sœur d'un agent littéraire. Et donc il part s'installer avec elle aux États-Unis et il n'y est pas très bien finalement.
La vie future, après ce passage à Londres, la vie future de Kipling va être assez compliquée. Enfin, même s'il arrive, il s'installe aux États-Unis.
Dans le Vermont.
Dans le Vermont. Alors, il avait, oui, quand il est rentré d'Inde, il a fait une étape donc par les États-Unis et il voulait absolument faire une chose essentielle pour lui, c'était d'interviewer Mark Twain. Et cette interview, elle subsiste encore. On peut la lire, cet entretien, cette visite à Mark Twain, c'est quelque chose de fascinant, parce que le vieux Mark Twain a entendu parler de lui, et au fond, Kipling vient voir un personnage qui l'intéresse, parce qu'il il a envie de devenir un peu ça, quoi, finalement.
Et Twain lui-même était une pop star, vous parliez de pop star, Twain faisait des tournées, des conférences, il était très connu.
Oui, absolument, les gens venaient le voir, enfin, c'est l'icône littéraire américaine, Mark Twain, enfin une des icônes, et donc oui, alors après donc Londres, ça se passe finalement pas très très bien, sauf qu'il rencontre un garçon qui Walcott Balessier, qui était un genre littéraire que James connaissait et qui avait une sœur, Caroline, Carrie, qui va évidemment jouer un rôle décisif dans la vie de Kipling, puisqu'il va l'épouser après la mort prématurée de ce jeune homme, Walcott, avec lequel Kipling avait entrepris d'écrire un roman, que finalement il va écrire tout seul, après la mort de Walcott Balessier, et donc il épouse, mais comme ça, à la sauvette, hein, alors que tout le monde a la grippe à Londres à ce moment-là. il épouse Carrie Balessier, et ils partent s'installer dans le Vermont. Bon, alors, même si sa carrière continue, enfin, il devient de plus en plus célèbre, il va écrire, bon, c'est des grands livres, hein, mais c'est vrai qu'il reste sur la réputation de ses premiers contes, qui sont sûrement des best-sellers à l'époque. Mais sa vie, au fond, est pas simple.
Kipling est un auteur
Jean-Pierre Nogret.
Difficile à déchiffrer, tout simplement. J'ai souvent l'impression d'être face à une partition musicale, justement, avec des effets d'assonance, de rythme, hein, de la phrase ou du poème, qui font que on a cet exotisme de la langue aussi, qui est très très important et qui fascine. Moi, je vais vous faire un aveu, j'ai découvert Kipling à travers les histoires comme ça, et notamment l'histoire de l'enfant d'éléphant. Ma mère me faisait écouter un disque dans lequel le récitant était François Perrier. Il y avait aussi Muse d'Albret. Alors ça me fascinait étant petit, parce que l'enfant d'éléphant, c'est l'histoire de comment les éléphants ont une trompe, alors qu'ils ne l'avaient pas au début, selon Kipling. Et c'est une histoire que je trouvais magnifique, parce que justement c'était rempli de mots qui, évidemment, aux sonorités étranges. Le fleuve Limpopo, gris vert et tout bordé d'arbres à fièvre.
Histoire comme ça, de Rudyard Kipling, traduction de Fabulet et Dumière, adaptée par Muse d'Albret. Aujourd'hui, l'enfant d'éléphant, avec François Perrier et Madeleine Barbulet, Habib Benglia, Maddy Berry, Jean Clarence, Muse d'Albret, Suzanne Delvé, Pierre Ferval, Tristan Sévère et Jacques Dufilho. Réalisation, Guy Delaunay.
C'était fascinant. Et c'est comme ça que j'ai découvert Kipling. Il suffit de penser aussi à la mangouste Riki Tiki Tavi. Hein. Riki Tiki Tavi, c'est quand même... C'est fascinant.
Ceci est l'histoire de la grande guerre que Riki Tiki Tavi livra tout seul dans les salles de bain du Grand Bungalow, au cantonnement de Segauli, Darcy. Au cantonnement de Segauli, Darcy, l'oiseau tailleur, l'aida, et Chuchundra, le rat musqué, qui n'ose jamais marcher au milieu du plancher mais se glisse toujours le long du mur, lui donna son avis. Mais Riki Tiki fit la vraie besogne. C'était une mangouste. Il rappelait assez un petit chat par la fourrure et la queue, mais plutôt une belette par la tête et ses habitudes. Ses yeux étaient roses comme le bout de son nez affairé. Il pouvait se gratter partout où il lui plaisait, avec n'importe quelle patte, de devant ou de derrière, à son choix. Il pouvait gonfler sa queue au point de la faire ressembler à un goupillon pour nettoyer les bouteilles, et son cri de guerre, lorsqu'il louvoyait à travers l'herbe longue, était « Rik-tik-tiki-tiki-tchik ». Un jour, les hautes eaux d'été l'entraînèrent hors du terrier où il vivait avec son père et sa mère, et l'emportèrent, battant des pattes et gloussant, le long d'un fossé qui bordait une route. Il trouva là une petite touffe d'herbe qui flottait et s'y cramponna jusqu'à ce qu'il perdît le sentiment. Quand il revint à la vie, il gisait au chaud soleil, au milieu d'une allée de jardin, très mal en point, il est vrai, tandis qu'un petit garçon disait « Tiens, une mangouste morte. Faisons-lui un enterrement. » Non, dit la mère, prenons-le pour le sécher. Peut-être n'est-il pas mort pour de bon. Ils l'emportèrent dans la maison, où un homme le prit entre le pouce et l'index et affirma qu'il n'était pas mort, mais seulement à moitié suffoqué. Alors, ils l'enveloppèrent dans du coton, l'exposèrent à la chaleur d'un feu doux, et Rikki-tikki ouvrit les yeux et éternua.
Something's moving. On peut reconnaître à Kipling cette faculté de savoir rendre les voix. Moi, c'est ce qui m'intéresse chez lui. C'est ce qui aussi peut décontenancer le lecteur. Ses poèmes même sont souvent assez énigmatiques. Donc il y a un jeu sur ce qu'on a appelé le nonsense, hein, l'écriture du nonsense à la Lewis Carroll ou Edward Lear, hein, qui étaient des contemporains de Kipling. Donc c'est vrai que le point commun, c'est cette écriture à la fois allègre, apparemment enfantine, et en réalité extrêmement codée. On sait par exemple que le livre de la jungle a pu être lu comme renvoyant à des hommes politiques anglais.
C'était des hommes politiques contemporains de Kipling.
Contemporains de Kipling, oui. Ce qui fait que là aussi, un écrivain apparemment enfantin, ou écrivant pour les enfants, écrivait aussi pour les adultes. Hein, c'est aussi toute l'ambiguïté et le caractère assez codé, ou ce qu'on pourrait appeler un roman à clé. Toutes ces strates de signification qui font que, à tout moment, on ne sait jamais si il faut prendre ce qu'on lit au sens littéral ou s'il ne faut pas embrayer sur une lecture plus ésotérique. On sait que Kipling était franc-maçon et il y a énormément de nouvelles justement qui portent sur la franc-maçonnerie. Et je crois que Kipling est un auteur qu'on ne finit pas de découvrir aussi, parce que on s'aperçoit, à force d'être travaillé, d'être interprété, on revient sans cesse, hein, sur la partition pour y découvrir
l'écriture entre les lignes.
Des sens, exactement, l'écriture entre les lignes, hein, des sens cachés.
Il est ironique, François Rivière, dans Les simples contes des collines, Kipling?
Ouais, il se moque de tout, c'est un espèce de gamin, d'enfant terrible qui se moque de pas mal de choses. Finalement, c'est une tradition quand même anglaise, hein, dans le roman victorien, bien avant aussi. Je sais pas, mais donc quand on lit Lewis Carroll ou des gens comme ça, bon, il y a quand même une espèce de tradition d'ironie. Mais là, le mélange, enfin l'originalité des textes des contes des collines. C'est justement ce mélange absolument incroyable, ce côté vertigineux. En fait, beaucoup de gens ont prétendu, enfin du vivant de Kipling, qu'il était incapable, même son père, je crois, qu'il était incapable d'imaginer une intrigue. En fait, même jusqu'à Kim, au fond, dont l'intrigue est un peu foireuse, c'est un espèce de méli-mélo de choses vécues, parce que finalement, comme il était journaliste, il faisait des reportages, donc il partait, il allait voir des maharajas, il allait voir surtout, il côtoyait ses idoles qui étaient les soldats anglais qui crevaient de chaud, qui s'amusaient pas trop, qui vivaient difficilement, mais qui lui ont inspiré justement ces personnages, Mulvaney et autres, qui sont des personnages à la fois qui peuvent faire penser aussi bien à Courteline qu'à des auteurs plus sérieux. Et je crois justement que là encore, l'influence de ces écrivains français que lui lisait beaucoup adolescent a été très grande. Enfin, ça a été vraiment décisif aussi pour cette forme de fiction qui, du coup, oui, je dirais qu'elle est presque plus française dans les premiers temps qu'anglaise, même si c'est très anglais, justement, du fait qu'il y a cette ironie, ce nonsense permanent, enfin, c'est cette manière de voir les choses, quoi, qui est quand même très, très anglaise.
Figurez-vous, j'ai appris seulement pendant la guerre, c'est quand on se battait en Birmanie. J'avais connu les beaux temples d'or de la Birmanie.
Extrait du journal des voyages, 1951.
Je en cherchais des souvenirs et je pensais à cet admirable poème de Kipling, La route de Mandalay, On the road to Mandalay, where the old flotilla lay, etc. Et je ne savais pas ce que c'était. Je l'ai demandé à un de mes amis, je me suis aperçu que ça faisait partie des poèmes des ballades de la chambrée et que c'était tout simplement écrit en argot. Et j'ai essayé à cette époque-là une traduction ma foi, la voici. Près de la vieille pagode de Moulmein, les yeux tournés vers l'est et la mer, une petite birmane est assise, et je sais qu'elle pense à moi. Car le vent dans les palmes et les cloches des temples disent « Reviens-t'en, soldat anglais, reviens-t'en vers Mandalay, où la vieille flottille allait. N'entends-tu pas battre les pagaies de Rangoon à Mandalay? Viens voir les poissons voler, et l'aurore, comme le tonnerre, surgir de Chine par-dessus la mer. » Quand le brouillard montait des rizières et que le soleil descendait sur l'eau, elle prenait son petit banjo et me chantait « Coula lolo ». Son bras posé sur mon épaule et sa joue tout contre ma joue. On aimait regarder les bateaux et les hatties empilant le teck, les éléphants empilant le teck, en pataugeant dans la baie. Et le silence pesait si lourd qu'on en avait peur de parler sur la route de Mandalay.
En 1907, Kipling est nobelisé, soit le prix Nobel de littérature. C'est le premier Anglais à le recevoir. Bon, le prix Nobel de littérature est assez récent quand il le reçoit. Mais au début du XXe siècle, commence un divorce entre le public et la critique vis-à-vis de Kipling. Qu'est-ce que les critiques reprochent à Kipling?
Il faut dire d'abord que donc quand Kipling obtient le prix Nobel, il a que 42 ans, donc en 1907, et il écrit jusque dans les années 30. Donc c'est un cas intéressant d'un écrivain qui obtient le prix Nobel pour une partie de son œuvre maintenant connue.
Il a 20 ans
effectivement d'écrit, mais c'est étonnant de penser que donc qu'il a autant d'années à écrire après la réception du prix Nobel. Pour ce qui est du divorce entre Kipling, le public et la critique, alors il y a plusieurs choses qu'il faut noter, ça dépend du pays dont on parle. Kipling est toujours resté, je crois, un écrivain populaire. Donc le public lit Kipling et continue de lire Kipling. Vous avez encore en anglais tous les textes de Kipling dans des éditions de poche accessibles. Donc voilà, il ne cesse jamais d'être disponible. En revanche, la critique passe par diverses phases. Une des raisons du divorce de la critique avec Kipling, ce sont ses opinions politiques. Kipling est un défenseur de l'Empire, un défenseur de la monarchie, un écrivain nationaliste, en particulier au moment de la Première Guerre mondiale, mais qui ne l'était pas, profondément anti-allemand, y compris après la Première Guerre mondiale. Donc il fait partie d'une tradition politique britannique qui est très nettement à droite.
Conservatrice.
Mais d'un type particulier, c'est-à-dire vraiment avec cet attachement à l'Empire, des conservateurs qui ne l'étaient pas, etc.
Il faut dire que Kipling, oui, n'était pas quelqu'un de facile à cerner sur le plan idéologique. Et c'est quelqu'un qui déjà croyait très fort à la supériorité de l'homme blanc. Bon, alors évidemment, ça, à l'époque, ça faisait pas forcément couler beaucoup d'encre, mais ça lui a valu quelques inimitiés. Et puis là, en plus, il a pris position contre ce qui se passait en Angleterre. Enfin, on l'accuse d'être le chantre d'impérialisme. Pour lui, c'était une évidence que l'Empire anglais, même s'il n'était pas lui-même un fan de la reine Victoria, puisse exister et perdurer. Enfin, on en a beaucoup voulu. On l'a et très très vite. Enfin. Même avant la sortie en librairie des livres de la jungle, qui ont un peu fait diversion, parce que là, on a senti qu'ils se dirigeaient vers une forme de littérature qui était plus innocente, si on peut dire. Et il était considéré même par la jeune génération comme un vieux réactionnaire, quoi. Mais ça, alors déjà, il y avait les travaillistes ce qui était déjà le travaillisme, des gens qui étaient des nouveaux idéologues, britannique, qui trouvait que ce type était justement un vieux réac, pour dire les choses, quoi. Même si littérairement on l'admirait encore, bon, il devenait quelqu'un qu'il fallait éviter presque.
Qu'est-ce qu'il critique, François Rivière, Kipling, sur la vie politique intérieure de l'Angleterre?
Kipling justement incarnait cette espèce d'envie d'en découdre avec tous les ennemis de l'Empire. Mais oui, cette espèce, il était obsédé quand même par l'idée de défendre une espèce d'idéal. Qui était la conséquence, oui, de sa vision de son... Alors, on peut appeler ça du racisme, évidemment. Mais à l'époque, bon, c'est plus compliqué, parce que justement, il y avait cette espèce de rêve, quoi, que lui craignait de voir totalement s'évanouir, enfin, s'effondrer. Mais c'est un côté... C'est un petit garçon, en fait, hein, c'est un vieux petit garçon, hein, à partir d'un certain moment, qui veut se battre avec ses armes en carton et qu'il faut calmer, quoi.
Extrait d'un discours de George Sand.
Grâce à une des merveilles des temps modernes, je peux, en ce jour de Noël, parler à tous mes peuples à travers tout l'Empire.
I take it as a good omen.
Je prends pour un bon présage le fait que la radio ait atteint sa perfection actuelle à une époque où l'Empire est soudé par une union plus étroite.
Pourquoi Alexis Tadié, Kipling, aimait autant les soldats?
Alors,
la vie militaire.
Il les connaissait en Inde, dans les stations. Il avait une affection particulière pour certains régiments. Et il avait créé de ces personnages, deux soldats, notamment trois soldats, qui reviennent d'histoire en histoire et qui sont comme des héros, de, même si le mot héros ne convient pas très bien, qui sont comme des héros de certaines de ses nouvelles. Et puis, il y a aussi, chez Kipling, le militariste, le nationaliste, soutien évidemment en temps de guerre de l'effort britannique, qui envoie son fils
John
alors que John voulait être marin et il a été réformé pour cause de myopie, question, chose héréditaire de la famille Kipling.
Et il était mineur,
oui, absolument. Et il aurait pu donc ne pas partir, mais c'est son père l'a poussé, et évidemment, comme à peu près tous les soldats qui sont partis à la guerre, de 14, il n'est pas revenu, il est mort à la bataille de Loos, et ce qui a été un très très grand choc pour Kipling.
Si tu peux parler aux foules et rester honnête, ou cheminer avec les rois sans perdre le jugement commun, si tes amis les plus chers ou tes ennemis ne peuvent t'atteindre, si tous les hommes comptent pour toi, mais aucun plus qu'un autre, si tu peux emplir la minute sans pitié de 60 secondes qui en valent la perte, la terre sera tienne et tout ce qu'elle contient. Et cela est le plus important, tu seras un homme, mon fils. If Rudyard Kipling.
C'était un homme de son époque, ça. Il faut voir que Kipling n'était pas le seul du tout. Effectivement, il y avait beaucoup de gens qui étaient aussi antimilitaristes, en tout cas qui se sont battus très tôt contre les horreurs de la guerre. C'était pas le cas de Kipling. Il pensait vraiment, justement, dans cette logique patriotique, en fait, et d'affrontement, il voyait la guerre comme étant pas un bien nécessairement, mais en tout cas une nécessité pour laquelle il fallait retrouver toutes ces valeurs guerrières qu'il admire, qui sont le courage, l'honneur, la patrie, qui sont justement celles qui ont construit cet empire. Et donc, pour lui, de la même façon qu'il avait raconté la geste des combattants britanniques en Afghanistan, qu'il avait fait l'éloge de ses soldats morts, il lui semblait très certainement tout à fait naturel que son propre fils aille se battre sous ses couleurs, même si je pense que voilà, il a été aussi très frappé par ce deuil et il en a énormément souffert.
C'est-à-dire que je crois que le grand contresens qu'on a fait sur Kipling, c'est d'assimiler le Kipling, dans ses positionnements idéologiques qui incontestablement étaient ceux de l'impérialisme anglais, donc sur le plan idéologique, il n'y a aucun doute, il faisait partie de ce système-là. Certains poèmes aussi sont difficilement supportables de nos jours, où évidemment on a tendance à critiquer l'idéologie impérialiste. Mais en même temps, ce qui est très intéressant chez lui, c'est de voir que en tant que écrivain, en tant que conteur et romancier, il a fabriqué des scénarios qui, des histoires qui sont tout sauf l'apologie de l'impérialisme. Et là, le plus bel exemple qu'on pourrait citer, c'est L'homme qui voulut être roi, donc publié en 1888, The Man Who Would Be King, dont John Huston a fait un film célèbre avec Michael Caine et Sean Connery. C'est un texte, moi, que j'utilise souvent avec mes étudiants pour leur montrer que, au contraire, là, on a l'élaboration d'un scénario, d'une histoire dans laquelle, d'abord, dont les deux protagonistes sont deux Anglais très moyens, voire médiocres, et qui voudraient bien régner sur un territoire, le Kafiristan, aux confins de l'Afghanistan, etc., territoire imaginaire, mais sur lequel ils voudraient imposer leurs lois, et notamment en trompant les indigènes, puisqu'ils se prétendent être descendus d'Alexandre le Grand et de la reine Sémiramis. Hein, donc ce sont des fantasmes d'empire qui sont violemment, sévèrement critiqués par Kipling, en tout cas par son narrateur, qui les représente comme deux histrions dangereux, dont la chute est d'autant plus grande qu'ils ont rêvé très haut pour imposer leur domination. Et on trouve énormément de nouvelles, de contes, qui traitent de manière souvent très ironique, justement, la domination anglaise en Inde.
Je suis le disciple de ce saint, dit Kim, comme il passait la barrière du village. Les villageois semblaient les voir partir à regret. Mais l'adieu du prêtre fut froid et réservé. Il en était pour ses frais d'opium à l'égard d'un gueux qui ne portait pas d'argent. Voilà qui est bien parlé. Je n'ai guère l'habitude des saints hommes, mais le respect est toujours une bonne chose. Le respect aujourd'hui s'en va. Même quand un sahib officiel vient me voir. Mais comment celui que son étoile conduit à la guerre peut-il suivre un saint homme ? Mais c'est un vrai saint homme, dit Kim avec feu. Un saint en vérité, en acte et en parole. Il ne ressemble pas aux autres. Je n'en ai jamais rencontré un pareil. Nous ne sommes ni diseurs de bonne aventure, ni jongleurs mendiants.
Kipling est quelqu'un, justement, c'est ce que dit aussi Edouard Saïd dans une préface à Kim. Kipling était très respectueux, d'une certaine manière, des coutumes et du sacré indien. Et là aussi, il tranchait par rapport à la communauté, disons par rapport à l'idéologie ambiante des administrateurs anglais qui étaient une idéologie d'exploitation et voire de mépris des indigènes, quelque chose au contraire que Kipling tenait pour sacré. Pour lui, les indigènes étaient aussi sacrés, entre guillemets, que les bois, les forêts, les animaux. C'était quelque chose qu'il fallait respecter, dont il fallait être à l'écoute. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans une nouvelle de Kipling, par exemple, qui est fascinant de ce point de vue-là, qui s'appelle « La marque de la bête », qui date de 1890, où Kipling montre comment un administrateur un peu éméché, le soir, avec des amis, se promène près d'un temple, et l'un d'entre eux, plus éméché que les autres, avec son cigare, imprime une marque sur une statue indienne, violant le temple, donc, de la localité. Et un lépreux sort du bâtiment et le touche et lui transmet la lèpre, et toute la nouvelle parle justement de ce contact qui est mortifère, qui en fait relève d'une sorte de vengeance de la divinité locale sur les Anglais qui ont commis une transgression.
Moi, j'aime beaucoup l'histoire qui s'appelle j'ai un peu peur avec le titre, c'est la plus vieille histoire du monde, je sais plus. L'histoire du fonctionnaire pauvre petit rond de cuir qui se rend compte qu'en fait il a été dans une vie intérieure, qu'il a été galérien, mais ça lui revient par vague comme ça. Donc on est dans le fantastique le plus total, et on est dans une histoire qui relativise complètement tout. C'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un qui est pris dans la société moderne, enfin c'est le début du XXe siècle, mais c'est valable pour toutes les époques, et qui est pris dans et qui finalement se rend compte qu'il est peut-être la réincarnation de quelqu'un qui a vécu complètement autre chose. Quoi. Ça relativise tout, mais en l'espace de quelques pages, il arrive à faire avec une fable finalement, parce que ce sont des fables, à montrer ce que c'est que l'incarnation, finalement. Est-ce que ça peut être que le regret, justement, de pas avoir vécu autre chose? Comme lui a vécu plein de vies, même dans sa propre vie, il a vécu quand même beaucoup de choses très, très, très diverses. Il était à même d'imaginer aussi tous les rêves qui pouvaient être ceux des gens qu'il côtoyait, enfin. Et c'est pour ça qu'il y a une modernité, quand même, dans son œuvre qui est absolument indéniable. Il y a un style qui est quand même, enfin, une écriture qui ressemble à rien d'autre. Déjà, le mélange, effectivement, on peut ne pas aimer, mais le mélange de plein d'éléments, plein d'ingrédients dans sa fiction, et puis le fait d'explorer plein de choses, quoi, d'aller assez loin, de pas être très politiquement correct. Il racontait tout ce qui lui passait par la tête, mais en même temps, il crée tout un monde, quoi. Il a donné, je pense qu'il a quand même eu une influence sur le que reconnaissent assez peu d'écrivains anglo-saxons d'ailleurs, hein, mais une influence énorme sur la fiction anglaise, forcément. Puis innover quelque chose. Donc, on peut en venir à James, qui justement avait compris ça tout de suite, quoi. Enfin, qui a lu les premiers Contes des Collines et qui a compris à quel point là, on tenait un écrivain qui allait sortir, qui allait ouvrir les fenêtres un peu et faire entrer de l'air pur, quitte à ce que dans cette terre arrivent aussi des effluves un peu bizarres, quoi. Mais c'est des choses qu'on retrouve maintenant dans la littérature américaine, notamment peut-être les Américains.
À qui vous pensez, François Rivière, en parlant de filiation entre Kipling et d'autres écrivains anglo-saxons, vous pensez à qui?
Moi, j'ai un peu de mal à imaginer qui, parce que comme les gens se sont pas tellement déclarés, on a du mal à imaginer l'influence. Mais il y en a une quand même qui saute aux yeux, parce que celui qui a été vraiment marqué n'a pas cessé de le raconter, c'est Borges, qui a écrit des contes à la manière de Kipling.
Nous ne sommes ni diseurs de bonne aventure, ni jongleurs mendiants. Sous l'aiguillon de la fraîcheur première du jour, le lama avançait à longues enjambées désinvoltes, balancées comme celles des chameaux. Il marchait, enseveli dans la méditation, et faisait machinalement cliqueter son rosaire.
Il faut savoir qu'il a été admiré quand même de beaucoup d'écrivains, même si sa réputation parfois est fluctuante, y compris dans les années récentes. Il jouit d'une réputation littéraire importante et donc fait partie de ces écrivains, aussi comme Stevenson ou d'autres, qui ont une certaine place dans le monde littéraire. Alors, tout le monde ne l'aime pas.
Conan Doyle l'admire aussi.
J.M. Barrie aussi, à qui succédera dans sa fonction, l'auteur de Peter Pan. Et puis, il y en a d'autres qui l'aiment pas du tout. Oscar Wilde, par exemple, le trouve vulgaire, dit qu'il observe bien la vulgarité, mais que lui, il n'a aucun intérêt, justement, pour la vulgarité.
Et qu'il est le premier dans les choses, pour les choses de second plan.
Voilà, c'est ça. Ce qui est quand même, qui fait partie des épigrammes d'Oscar Wilde, effectivement, assez assassin, comme formule. Cela dit, on pourrait aussi noter qu'il y a quand même pas mal de points de contact entre Wilde et Kipling, à la fois dans la conception de l'art, dans l'itinéraire littéraire, où Kipling a beaucoup plus écrit, mais Wilde et Kipling ont écrit des poèmes, Wilde et Kipling ont écrit un roman sur la vocation de l'artiste, La lumière qui s'éteint pour Kipling, et évidemment le portrait de Dorian Gray pour Wilde. Wilde pensait qu'il n'y avait aucune réalité en dehors de l'art, ou aucune réalité intéressante en dehors de l'art. Kipling n'est pas loin de penser la même chose. On parle en ce moment pas mal de sa vie, mais finalement, Kipling s'intéressait moins à sa vie qu'à ses œuvres. George Orwell, par exemple, dit qu'il y a des choses très belles dans les poèmes de Kipling, mais qu'elles sont abîmées par ses accents, et que si on rétablit une langue anglaise qui est non pas l'accent cockney, mais l'accent de la prononciation plus standard, on découvre de grandes beautés dans la poésie de Kipling. Alors, Orwell, malgré son côté militant de gauche, était quand même un ancien d'Eton, et donc c'est ça qui ressort, à mon avis, dans cette affaire-là.
Et il défendait Kipling, y compris politiquement.
Oui, parce qu'il pensait que Kipling était quelqu'un d'honnête et que Kipling n'était pas un fasciste, comme il avait pu être taxé.
Mathias Sénard, il y a des points communs entre Kipling et Conrad?
Est-ce qu'il y a des points communs entre Kipling et Conrad? Oui et non. Disons que Conrad est éminemment moderne, c'est-à-dire au sens où les deux sont des auteurs de la transition entre le 19e et le 20e siècle. Mais Conrad va pencher résolument, en fait, du côté du 20e siècle, ne serait-ce que dans la forme de ses récits, dans la complexité des formes romanesques qu'il emploie et dans sa vision du monde, qui est d'un pessimisme très, pour le coup, côté du XXe siècle, là où Kipling reste un idéaliste qui, que ce soit dans sa langue, dans la forme de ses récits, dans le choix de ses thèmes, penche, lui, du côté du XIXe siècle. Donc les deux ont ça en commun, qu'ils sont vraiment à cheval. Tous les deux ont une vision de l'autre, de la différence, du voyage, mais qui s'exprime pas du tout de la même façon.
À Westminster, mais il n'y a aucun écrivain qui vient à son enterrement. Il y a son éditeur, et voilà.
Ouais, ben oui, ça m'étonne pas vraiment non plus, parce que c'était un... Surtout sur la fin de sa vie, justement, où il avait ses positions parfois si étranges politiquement, et puis dans ce grand basculement qu'est le XXe siècle, lui, finalement, il représente le siècle antérieur, donc très certainement... Il avait peut-être peu d'amis écrivains dans les années 30.
C'est une vie romanesque et triste parce qu'il a perdu deux enfants.
Oui, il y a eu des événements absolument effroyables. Ouais. Hein, ça, oui, la mort de sa fille. Mais donc, il s'est reproché parce qu'en fait, il s'est reproché la mort de son fils. Mais il s'est surtout reproché la mort de sa fille, fille aînée, je pense que c'était
oui,
la fille aînée.
Oui, Joséphine, c'est la première.
Joséphine, oui, parce qu'il y en a une qui est restée, qui a survécu beaucoup. Mais il est parti sur un coup de tête, il a voulu partir en famille en plein hiver à New York pour y rencontrer ses éditeurs. Bon là, c'est justement le caprice d'un jeune écrivain... justement qui obéit qu'à ses enfin qui est très ambitieux quoi puis qui organise sa vie de manière très qui règle sa vie et la vie de son entourage sur ses propres envies enfin c'est et du coup qui embarque et qui une tempête effroyable sur l'Atlantique et lui et sa fille arrivent à New York avec dans un état de épouvantable enfin de pneumonie on croit qu'il va, lui, il va mourir parce qu'il est vraiment atteint. Et en fait, c'est la pauvre gamine qui trépasse. Et ça, bon, ça la ravage complètement, quoi. Ce sont des événements qui en disent long sur lui. Enfin, sur l'ambiguïté du pas la duplicité, mais un peu quand même. Enfin, le personnage qui a du mal à s'avouer qu'il est, qui reste justement un petit garçon impétueux, capricieux et, qui et à qui il faut obéir enfin ce qu'on ne saura jamais parce que ça va être intéressant de savoir c'est ce que sa femme c'est ce que Carrie pensait de tout ça parce que c'était quand même un personnage il l'appelait la ministre de l'intendance ça en dit long sur il était on commençait pas très bien quelle était l'attitude de son épouse on a l'impression que c'est lui qui gère vraiment tout ça quoi mais l'importance de l'enfance chez Kipling qu'on trouve dans ses œuvres mais dans sa vie aussi je veux dire il est de la génération de gens comme James Matthew Barrie l'auteur de Peter Pan qui par rapport à l'enfance était je dirais que ce furent des pionniers de l'intérêt que les adultes peuvent manifester pour l'enfance et des adultes qui, en plus, étant des écrivains, dans leur œuvre, montrent vraiment qu'on a relayé les enfants trop longtemps ailleurs, même si on écrivait déjà pour eux avant eux. Mais là, on les prend au sérieux. Il y a même une espèce d'exagération voulue.
Lorsqu'avec le recul offert par ma 70e année, je regarde en arrière, il me semble que dans ma vie professionnelle, toutes les cartes me tombèrent dans les mains pour que je les joue à mesure qu'elles se présentaient. Ainsi donc, attribuant tout hasard favorable à Allah, dispensateur des événements, je commence. Ma première impression est celle du jour qui se lève, lumière, couleur et fruits dorés ou pourpres à la hauteur de mon épaule. Ce serait là le souvenir de sortie matinale ayant pour but le marché aux fruits de Bombay en compagnie de mon ayab, et plus tard de ma sœur dans son landau, puis de retour à la maison, nos achats empilés sur l'avant de celui-ci. Notre ayab était une portugaise catholique qui avait coutume de prier, moi à ses côtés, devant une croix plantée au bord du chemin. Minita, mon domestique hindou, entrait parfois dans de petits temples hindous où, mon âge m'excluant de toute caste, je le suivais, ma main dans la sienne, et contemplait les silhouettes indistinctes de dieux amicaux.
François Rivière, en 1937, est publié, donc à titre posthume, l'autobiographie de Kipling, qui est mort en 1936. Elle s'appelle, diversement traduit, mais deux ou trois choses sur moi, pour mes amis connus et inconnus. Et en exergue, il met une phrase, « Donnez-moi 6 ans de la vie d'un enfant et je vous laisse tout le reste. »
Oui, on a l'impression que finalement, pour lui, la vie, l'essentiel de sa vie, c'est ce qu'il a connu avant d'être envoyé en Angleterre par ses parents, puisqu'il est né à Bombay. Il a été littéralement élevé par son aïa, sa gouvernante, sa nounou, en fait, qui était portugaise.
Qui était née à Goa.
Et qui a eu beaucoup, une grande influence sur lui, qui lui a appris à parler d'une langue qui n'était pas celle qu'il aurait dû parler normalement. Enfin, qu'il parlait un peu avec ses parents, mais au fond, l'anglais, il aimait pas trop. Oui, ça explique tout, en fait. Tout Kipling est déjà là, quoi. Et puis, c'est un monde magnifique, quoi. C'est le jardin. Enfin, quand il évoque, lui, son enfance, bon, c'est vraiment, enfin, les 6 premières années de sa vie, quoi. Effectivement, on est dans un... C'est le paradis perdu. Donc, à quoi bon écrire des souvenirs, enfin raconter sa vie comme font les gens qui n'ont pas vécu grand-chose, mais qui enjolivent le moindre petit événement, la moindre rencontre avec un personnage célèbre ou quoi. Il parle de Mark Twain, mais je suis même pas sûr.
Alors il l'évoque.
Oui, il l'évoque. Alors que quand on lit justement ce texte, qui est bizarrement qui est paru en français uniquement en préface à un recueil dans les années 20, cette fameuse rencontre avec Mark Twain, là, on a un vrai événement. Mais au fond, pour lui, je crois que les vrais événements, ça a été l'écriture de ses livres. Enfin, les seuls événements importants après la première section de sa vie en Inde.
Bhagavati stuti prata smarami sarodindu karu chalabhan chadaratna
Merci à Mathias Sénard, écrivain, auteur de Boussole et de Parlez-leur de bataille, de roi et d'éléphant. Alexis Tadier, professeur de littérature anglaise à la Sorbonne et à Oxford. François Rivière, essayiste, romancier, journaliste, auteur du Mariage de Kipling. Et Jean-Pierre Nogrette, professeur de littérature anglaise à la Sorbonne Nouvelle. Prise de son, Étienne Klein. Mixage, Éric Boisset. Archivina Nathalie Durand. Attachée de production, Claire Poinsignon. Coordination, Perrine Kervran. Rudyard Kipling, l'écriture entre les lignes. Virginie Bloch-Lenné, Clotilde Pivin.
C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Perrine Kervran avec Claire Poinsignon. Bibliographie, liens, réécoute, podcasts et commentaires, c'est sur la page de l'émission, sur le site de France Culture. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. Et la semaine prochaine, nous serons avec celui qui luttait seul et sans jamais sourire contre les éléments déchaînés, Buster Keaton. Mais dans un instant, on retrouve Christophe Onodibio et le temps des écrivains.